Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous dans Jazz à Jeunes et Nus Solidaires. On espère que vous passez un excellent samedi et que tout se déroule bien pour vous, que vous avez passé une belle semaine et que vous prenez le temps de décompresser un peu. Nous, on est ravis de vous retrouver ben, comme chaque samedi. Et donc, aujourd'hui, j'aurai le plaisir de mener cette émission avec Michelot Jean-Claude. Bienvenue Michelot, merci d'être avec moi aujourd'hui.
Bonjour Mélina, bonjour, c'est un plaisir d'être là.
Bon, ça me fait plaisir. Alors Michelot, c'est un nouveau membre de Jeunes et Innés Solidaires et il s'avère qu'il est donc le responsable VP à la communication. Donc on est content de t'accueillir. Bon, est-ce que tu as passé une belle semaine, Michelot?
Ben, ça a été une belle semaine. On commence à sentir l'arrivée de l'automne et on voit les feuilles et les arbres qui commencent à tomber. Mais...
c'est quelque chose, ça, au Québec et au Canada en particulier.
En effet, c'est une bonne semaine. On a encore un peu de soleil.
Oui, c'est ça. Donc, on en profite. Alors, comme vous le savez, Jeunes et Nés Solidaires, l'émission donc, qui porte le même nom que notre association para-académique, parascolaire. Et à l'occasion donc de la décennie pour le vieillissement en bonne santé 2021-2030, ben initiée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, tenant compte également des bouleversements qu'a provoqué la Covid-19 dans la vie de toutes les communautés, ben nous étudiants de l'université, étudiantes et étudiants de l'université Laval, du premier, du deuxième et du troisième cycle, toutes disciplines confondues, ben nous avons décidé de créer Jeunes et Aînés Solidaires, JAS, de l'Université Laval. Cette association para-académique, donc parascolaire, est reconnue par l'université pour renforcer les liens intergénérationnels au sein même sur le campus, bien évidemment, mais dans toute la capitale nationale avec l'apport de la communauté étudiante. Donc, parmi nos objectifs principaux, nous, ce que nous voulons, c'est aider, en tout cas, à tisser des liens entre les étudiants de l'université et les aînés de la capitale nationale à travers notre émission radio hebdomadaire sur Chise 94.3 FM, ben, tous les samedis de 11h à midi. On remercie d'ailleurs notre partenaire Chise d'être aussi présent avec nous. Ça nous fait vraiment très plaisir. Créer donc un cercle de discussion intergénérationnelle et de diversité ethnoculturelle à travers l'activité rencontre intergénérationnelle et multilingue que nous allons commencer cet automne, à partir du mois d'octobre, je pense bien, le quatrième dimanche de chaque mois sur le campus, n'est-ce pas?
Exactement.
Bon, super. On va avoir des étudiants et puis des aînés.
Des aînés enfin, aussi, bien sûr.
Ouais, voilà, super. On va parler toutes les langues sur le campus, y compris le créole haïtien. Le créole guadeloupéen, le créole haïtien, l'anglais, le français, bien évidemment. Bien évidemment, enfin l'espagnol, enfin bref, cette richesse interculturelle que nous avons à la fois sur le campus et qu'on retrouve partout au Québec. Ce que nous voulons aussi, en fait, on veut vraiment porter notre petite pierre à l'édifice pour permettre, bien évidemment, qu'il y ait plus de bientraitance, plus de bienveillance entre nous et surtout que cette relation intergénérationnelle, ben, qu'elle puisse perdurer, évidemment, mais que ça puisse se faire avec le moins de friction possible. Donc, on y met notre petite touche et puis chaque samedi, ben, nous venons dans cette émission Jazz pour vous en parler davantage. Alors, étudiantes et étudiants aînés de la capitale nationale, solidaires, impliquez-vous, rejoignez-nous au sein de Jazz. Vous pouvez nous contacter à notre adresse jazz@ulaval.ca et donc ça nous ferait vraiment très très plaisir de vous accueillir. Donc si vous voulez faire la différence dans la communauté québécoise, dans la communauté étudiante et dans votre parcours, ben, s'impliquer dans Jeunes et Aînés Solidaires, c'est la bonne porte d'entrée. C'est plus qu'une ligne sur votre CV, mais une véritable expérience de vie. Et en tant qu'étudiante ou étudiant, ben, aussi en tant qu'aîné, ben, il y a des avantages. On va pas cesser de le dire, hein, de le répéter. Ben, il y a des avantages particuliers attribués à la participation au programme de bénévolat intergénérationnel et interculturel, peu importe l'âge des participants ou l'étape de vie. Ben, c'est ce qu'on veut effectivement créer et participer à cette belle dynamique intergénérationnelle sur le campus de l'Université Laval. Alors, nous allons passer ces 50 prochaines minutes ensemble. Michelot, tu m'as dit que tu vas bien. Question d'actualité, qu'est-ce qui t'a interpellé cette semaine? Alors, il y a tout un tas d'actualités qui perdurent dans le temps. Bon, la guerre en Ukraine, bien sûr, mais c'est vrai que ce qui a pas mal monopolisé ces deux dernières semaines, c'est le décès de la reine Elisabeth II. Donc, son enterrement a eu lieu cette semaine. Et puis, il y a l'actualité en Haïti aussi. On parle d'Haïti parce que tu viens d'Haïti, bien évidemment. Et puis, bon, chez nous, au Québec, ben, c'est les élections provinciales qui se poursuivent. Alors, qu'est-ce qui t'a interpellé, Michelot, cette semaine?
Bon, il y a plusieurs éléments. Et comme je viens de le dire, bon, l'actualité de la semaine, c'est sûrement les funérailles de la reine. Et bon, on a vu tout l'engouement que ça a suscité pour se recueillir devant... Le cercueil, la dépouille de la reine. Il y a des personnes qui ont passé des heures. Et il y a aussi... c'était l'occasion, je crois que c'était l'occasion aussi pour de nombreux chefs d'État à travers le monde de se rencontrer. Le Premier ministre du Canada était là, et aux côtés du président américain. Et donc, c'est vrai, généralement, les chefs d'État ont des grands sommets pour se rencontrer, généralement. Mais on a vu que la funéraille de la reine, ça a été aussi une occasion... Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit entre eux, mais quand même, ça a été une occasion de rencontre avec les...
C'est clair, et puis c'est assez rare aussi.
Ouais, hein. C'est assez rare, ouais. Justement.
Alors, sur le continent africain, ça suscite évidemment d'autres discussions, évidemment. Ouais, ce passé colonial, évidemment. Enfin, toutes ces questions-là ont été soulevées aussi. Ben, de toute façon, c'est la démocratie, il faut parler, il faut évoquer
il
toutes
faut
ces questions-là.
Quand tu dis passé colonial, mais pour certains, le colonialisme, ce n'est pas du passé, donc on a encore avec cette question de colonialité qui est encore à jour. Donc, c'était ça l'actualité de la semaine.
C'est ça qui t'a le plus interpellé.
Ouais. Non, il y a... Bon, justement, ça, c'est un élément. Il y a d'autres éléments aussi. Bon, on ne peut pas négliger aussi les questions climatiques.
Hein. Absolument, absolument.
Actuellement, là, on a... L'arrivée, on se prépare pour l'arrivée de cette tempête, de cet ouragan, Fiona.
Incroyable, incroyable. Voilà. Après de passer en Guadeloupe, ben, une petite pensée évidemment pour chaque Guadeloupéenne et chaque Guadeloupéen. Moi qui suis originaire de la Guadeloupe, effectivement, il y a eu de très gros dégâts en Guadeloupe, notamment sur la Basse-Terre. Et puis, c'est vrai que dans le fil d'actu cette semaine, quand j'ai vu passer cette information comme quoi Fiona arrivait comme un espèce d'ouragan ici, je dis waouh, c'est
je crois que c'est Radio-Canada qui a publié cet article que peut-être Fiona pourrait être la tempête, disons la pire tempête en 20 ans dans l'est du Canada. Hein.
Oui, c'est clair que les services météorologiques de toute façon sont à pied d'œuvre là-dessus et à chaque seconde nous donnent les informations quasiment en temps réel, évidemment, sur ça. Donc les changements climatiques, ben, ils sont présents et les phénomènes climatiques, les phénomènes effectivement des catastrophes naturelles de ce type aggravées par les effets néfastes des changements climatiques, c'est quelque chose qui nous interpelle tous.
C'est très sérieux. Ben, on a vu, par exemple, ce qui s'est passé à Montréal il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine de ça. Cette vague d'inondation à Montréal, avec des routes bloquées, des métros inondés, un grand déluge qui s'abat sur le Grand Montréal. Et il y avait même eu des pertes en vie humaine. Je crois qu'il y a eu un chauffeur qui a disparu. Donc là, on est face à une détérioration de la situation environnementale. En rapport avec les changements climatiques.
Absolument. Tu sais que c'est une question qui m'intéresse particulièrement parce que mon sujet, effectivement, de thèse s'intéresse particulièrement à l'impact des changements climatiques sur les aînés dans le milieu urbain. Et il y a vraiment j'essaye de faire je me lance là-dedans, en fait, dans une espèce d'étude comparée entre la capitale nationale et la ville de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. En fait, mes lectures m'amènent très loin et ça me fait très plaisir. Et donc, l'œil du géographe ou la géographe en devenir que je suis est vraiment très, très attentif à tout ça.
Ouais, il faut en parler parce que je ne suis pas sûr que ça fait partie des sujets prioritaires dans l'actualité, dans les débats, je ne sais pas, mais dans les débats politiques.
Alors justement, ça me permet d'évoquer cela avec toi parce qu'en fait, on dit que c'est peut-être pas la préoccupation du moment, mais c'est peut-être qu'on regarde l'information différemment aussi. C'est-à-dire que les phénomènes climatiques, ben, les médias, tous les médias en parlent. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, effectivement, ben, ce qu'il y a eu, effectivement, tous ces débordements climatiques et ces phénomènes climatiques très très graves, la vague de chaleur, les inondations partout sur la planète, enfin bref, les médias en parlent, sauf que peut-être on devrait aussi s'interroger sur le fait que ça devient tellement banal qu'on en parle comme presque d'un fait divers. Parce que les médias relatent l'information. Par contre, ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que puisque effectivement ça fait partie aussi de l'actualité, ben, ce débat dans le cadre des élections provinciales, tout le monde parle de changement climatique, tout le monde parle effectivement de la crise climatique, mais les solutions apportées ne sont peut-être pas à la hauteur des enjeux. Qu'est-ce que tu en penses, Michaud?
C'est ça. Bon, la première chose, c'est que très souvent, quand on parlait de changement climatique, on pensait à quelque chose qui va arriver. Oui. Donc là, on n'est plus là. C'est réel. Hein. Mm-hmm. Donc là, quand on parle de changement climatique, on parle de quelque chose qui s'installe déjà. Oui. Deuxième chose, et là, je fais référence, par exemple, à cette intervention des maires de la région de Montréal. Il y a plusieurs maires qui ont, par exemple, demander à ce qu'il y a, je crois que c'était 2 milliards de dollars par an, et je ne me souviens pas du chiffre.
Du montant exact, oui.
Du montant. Donc, pour accompagner des mesures en rapport avec le changement climatique, donc par rapport à ce que tu viens de dire là, c'est pour dire que les actions en rapport avec le changement climatique, ça coûte cher, mais l'inaction peut coûter plus cher.
Évidemment, donc ça coûte plus cher déjà, parce qu'à chaque fois qu'il y a une catastrophe, ben, on compte les morts, les blessés, on chiffre évidemment les dégâts, on déclare des zones sinistrées par rapport aux phénomènes aggravés effectivement par ces changements climatiques. On compte les morts et les blessés, et puis finalement... mais il faut dire aussi que l'économie est en jeu aussi.
Exactement.
C'est ça. Donc l'économie est en jeu, et donc ça pèse à la fois sur les pouvoirs publics et la santé publique aussi. Ça va coûter de plus en plus cher, et puis il y a le problème du financement aussi. Qui va financer tout ça?
Mais peu importe, ce qui est sûr, c'est que les actions bien coordonnées en rapport avec les changements climatiques, c'est pas gratuit, c'est... Je dirais même que c'est nécessaire.
Et c'est une urgence humanitaire.
Une urgence humanitaire. Et c'est pas, on ne parle pas du Canada. On a vu cette vague de chaleur en Europe. Il y a ce qui se passe. Et, bon, partout à
les
travers le monde.
Les inondations un peu
etc.,
partout.
Etc.
Oui, c'est vrai.
Par exemple, en Haïti, d'où je viens, c'est l'un des pays... Je crois que c'est le troisième pays du monde à être plus vulnérable par rapport aux effets des changements climatiques, les inondations, tout ça. Donc, c'est une question très importante.
Je suis très sensible à ce que tu dis. Je me souviens effectivement que lors du séisme qui a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes en Haïti en
2010.
En janvier 2010, je suis parti 3 jours après la catastrophe, parce que j'étais journaliste à l'époque pour un média local en Guadeloupe. Je suis resté à peu près 30 heures effectivement en Haïti. En fait, avant de comprendre ce qui arrivait, je voyais par exemple je voyais des choses dans la rue, je veux dire des choses. Je comprenais pas encore que c'était juste des corps qui étaient là. J'ai eu du mal à comprendre cela tout de suite, quoi. Tant on était frappé par tout ce qui se passait, c'était juste apocalyptique, quoi, j'ai envie de dire. Et puis je me souviens très bien d'un des habitants qui au niveau de Port-au-Prince, qui est venu nous montrer toute une montagne comme ça qui avait disparu, quoi, et qui disait qu'on parle de tant de décès, etc., etc., mais qui va compter les morts sous tout cet amas de décombres, etc., etc. C'était juste... C'est quelque chose qui marque à vie. Et donc, j'imagine que ceux qui restent là-bas, c'est toute une épreuve, quoi. Est-ce que tu étais là, en 2010?
Ah oui, bien sûr, j'étais au cœur de la tempête. Hein.
Tu étais où?
Mais à Port-au-Prince.
Tu étais à Port-au-Prince.
Je m'apprêtais à me rendre à un cours à la Faculté des sciences humaines de l'UEH. Et bon, c'est... Je crois que j'étais un peu... Mais c'est paradoxal, hein. Une autre mauvaise nouvelle m'a un peu sauvée parce qu'à ce moment-là, on a assassiné un professeur de la faculté.
Mon Dieu.
Ça fait que okay, le cours qui aurait dû commencer à 16h, ben, ça fait que j'étais à 16h53.
Mm-hmm.
J'étais en cours dans la rue à cause de cet acte. Donc, ce qui fait que j'étais pas à la faculté, sinon, ben, j'aurais. Bon, c'est vrai que le bâtiment n'a pas été effondré, mais on ne sait jamais ce qui pourrait se passer. Donc, oui, j'étais là, et bon, même si ça n'a pas rapport effectivement directement avec les changements climatiques, mais c'est un phénomène très sérieux. Et là, on parle de 2010, mais il y a aussi l'année dernière, en août 2000.
Enfin, si, le séisme, certainement, s'est aggravé aussi par les changements climatiques. Hein. De toute façon, c'est plus à prouver, c'est démontré par plusieurs rapports du GIEC. Donc, évidemment, mais quand on parle de résilience, quand on parle de résilience d'un peuple, ou j'ai envie de dire de la nation haïtienne, avec tout ce qui se passe chez vous, à tous les niveaux. On pourrait remplacer le mot résilient par Haïti ou par haïtien.
Bon, mais c'est... Bon, je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est effectivement curieux de voir comment on arrive... Bon, je me demande comment est-il possible. Actuellement, ce qui se passe actuellement est aussi grave, hein, que les phénomènes naturels, climatiques, tout ça.
Dis-nous un peu ce qui se passe actuellement.
Ben, je ne sais même pas par où commencer. Je pourrais commencer par exemple cette rareté de carburant. Mais
rareté et cherté.
Rareté, ben, une fausse rareté, puisque le Premier ministre a pris la parole récemment et dit que ben, le carburant est là, l'essence est là, mais ça ne peut pas être distribué dans les pompes. Et à cause de nos problèmes, hein, la question de l'insécurité, la prolifération des gangs, etc., qui empêchent les rues. Et puis, il y a cette nouvelle décision d'augmenter le prix du carburant, bon, qui ne devrait pas poser autant de problèmes. Mais on voit que, par exemple, à cause de cette décision, il y a eu des mouvements de protestation où des rues sont bloquées, etc., ce qui a paralysé, je dirais, l'ensemble du pays, toutes les grandes villes. Généralement, on parlait de Port-au-Prince, etc., mais là, on parle des différentes villes. Et c'est justement, comment un peuple arrive à surmonter tout ça d'un moment à l'autre. Par exemple, je crois que les prix des produits, des premières nécessités ont quadruplé, peut-être plus. Hein. Donc,
En peu de temps. Ouais.
Il y a l'inflation liée avec aussi la dépréciation de la goutte par rapport au dollar américain, puisque vous savez que Haïti importe principalement l'ensemble des produits. Donc, quand le dollar américain grimpe comme ça, ben ça fait augmenter les prix. Donc, voyez, donc le prix des produits se multiplie alors que les salaires, les revenus.
Ça ne suit pas. Bon.
Non, mais ça diminue.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Mais...
Donc, mais je pense qu'effectivement, c'est une occasion de le dire. Tu parles de résilience, mais je vois une crise humanitaire qui devrait interpeller le monde parce que. Qui devrait aussi faire appel à l'aide internationale, pas dans la manière. À une intervention de l'aide internationale, pas de la manière qu'on le connaissait. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, l'État haïtien n'a pas la capacité institutionnelle pour faire face à cette situation. On n'a pas de président, le président a été assassiné il y a plus d'un an, on n'a pas le Parlement, donc le mandat des élus. Il n'y a aucun élu. Actuellement, il n'y a aucun élu en Haïti. Les élus ont tous... les mandats ont tous plus fin. Il n'y a pas eu d'élection. La police nationale d'Haïti, peu importe l'institution qu'on prend, donc la capacité institutionnelle n'est pas là. Donc, il est impossible pour Haïti de surmonter cette situation. Il est impossible pour l'État haïtien de faire face adéquatement à cette situation. Mais là, on ne peut pas accuser uniquement l'État haïtien non plus. Hein. Il faut voir aussi la responsabilité de l'international, puisque, écoutez, depuis 2004, Haïti est sous la tutelle de l'ONU. Hein. Il y a eu le déploiement de cette mission des Nations Unies pour la stabilité en Haïti, la MINUSTAH, en 2004. Qui a été transformé en BINU. Bon, il y a plusieurs noms après, mais c'est encore là. Et la mission, c'est de stabiliser le pays. Et on sait toute l'intervention que l'international a fait, l'ONU, etc., pour cette mainmise sur les élections, sur tout ce qui se passe au niveau politique. Donc, on ne peut pas dédouaner l'international dans
alors,
tout ça.
Alors, j'entends bien ce que tu dis, en fait, Michelot, mais pardonne-moi si je me trompe, mais tu dis à la fois qu'il faudrait avoir l'aide internationale et en même temps, tu dis que tu ne peux pas dédouaner complètement que l'État haïtien. Il y a aussi une part de responsabilité de l'international. C'est pour ça, des fois, quand on entend ça, on a envie de se dire, mais vous voulez quoi exactement? Vous voulez plus d'international ou vous voulez l'international autrement?
Justement, voilà ce que je veux dire, parce que je dis que, premièrement, il est nécessaire qu'on ait un support de l'international, parce que on ne peut pas, l'État n'existe pas. Bon, c'est une façon de dire, mais...
Oui, bien sûr, on comprend bien. Bon.
Maintenant,
les institutions ne fonctionnent pas.
Ça ne fonctionne pas.
Voilà, depuis l'assassinat du président Jovenel.
Donc on ne peut pas s'en sortir seul. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il faut de l'aide de l'extérieur, mais comment?
C'est ça.
D'une autre manière, parce que ce qu'on a vu, c'est des décisions importées, prises en fonction, qui ne prennent pas en compte la réalité locale et qui poursuivent des objectifs, peut-être inavoués ou inavouables, je ne sais pas. Donc, c'est ça. Donc, il faut réellement, par exemple, remettre les institutions sur pied et créer un climat qui puisse permettre d'organiser les élections pour permettre à l'État haïtien de se remettre debout. C'est tout ça. Maintenant, une démarche qui vise à permettre à Haïti de reprendre cette autonomie, son autonomie, d'être capable de faire face aux enjeux, aux différents enjeux. Ils sont multiples.
C'est pas la ressource humaine qui manque. C'est pas les têtes pensantes qui manquent. Toi-même, tu es ici, Michelot, tu es doctorant en communication publique. Bon, on a des amis communs, évidemment, qui sont docteurs aujourd'hui, qui sont à Washington, enfin bref, à Montréal aussi, qui sont à New York, qui sont partout à travers le monde et qui sont aussi au pays, en Haïti. Et pour autant, qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas entendus, ceux-là? Qui fait que vous n'êtes pas entendus? Je te mets aussi du coup dans l'eau.
Bon, mais c'est ça, écoutez, c'est l'une des plus grandes pertes qu'Haïti connaît aujourd'hui, la fuite des cerveaux.
Alors, minute. je n'aime pas tellement cette expression, mais on peut en discuter. Il n'y a pas de fuite des cerveaux. Il n'y a pas de fuite de cerveaux. C'est-à-dire que les cerveaux vont là où ils sont accueillis à travers le monde.
Voilà.
Donc, il n'y a pas de fuite des cerveaux. Les gens, on est dans un grand village. Hein. Le monde, c'est un grand village aujourd'hui. Il n'y a pas de fuite des cerveaux.
C'est ça, mais laissez-moi vous dire, par exemple... Si je prends par exemple le cas de ce qui se passe au niveau de l'université, par exemple à l'Université d'État d'Haïti, moi-même j'ai été formé à l'Université d'État d'Haïti par exemple. Ma formation a été totalement gratuite. Vous voyez? Et c'est le cas depuis toujours, hein, mais vous allez voir que tous ces diplômés, ces universitaires qui ont un baccalauréat, bon, qu'on appelle licence chez nous, une maîtrise ou un doctorat peut-être, et c'est pas de gaieté de cœur qu'il laisse le pays. Bon, par exemple, on peut avoir des projets personnels qui fait qu'on choisit de vivre où on a le droit d'aller vivre là où l'on est. Mais je connais aussi des gens qui n'ont pas choisi de partir, qui ont laissé le travail, qui avaient des projets sur place. Ah ben justement, c'est la première chose, la question de sécurité, par exemple. Comment peut-on être un professionnel ou peut-on fonctionner là où sa vie est constamment en jeu, il y a les risques de kidnapping, d'assassinat, tout ça. Et puis, mais il y a aussi au niveau politique, je ne suis pas sûr que c'est la catégorie des personnes qui soient entendues par les autorités, je ne suis pas certain.
Donc là, ce sont plutôt les chefs d'entreprise, ceux qui ont le porte-monnaie, on va dire.
Mais je dirais même ceux qui ont les plus de capacités de pression. Hein. La capacité de pression, ça peut être... de diverses formes.
Oui, mais justement, dans plusieurs pays, en tout cas, effectivement, la voie étudiante, c'est quand même quelque chose. Quelle place occupent justement les associations étudiantes? Est-ce que d'abord elles sont organisées, ces associations-là? Est-ce que les étudiants sont entendus? Est-ce qu'ils peuvent former un espèce de groupe de pression ou pas du tout? Ou en tout cas, le milieu académique n'a pas vraiment de proie, j'ai envie de dire ça comme ça, entre guillemets.
Bon, Mais il n'y a pas très longtemps, par exemple, on a eu ces mouvements de protestation en 2004. C'était principalement un mouvement étudiant. Et il y a eu dans l'histoire récente d'Haïti la Fédération des étudiants haïtiens, Fédération nationale des étudiants haïtiens. Il y a des associations actuellement de professeurs, d'universitaires. Mais je trouve qu'ils ne sont pas suffisamment impliqués et organisés pour ça.
On revient... On poursuit la discussion très intéressante juste après cette petite pause et on va poursuivre donc nos échanges avec Michelot. Émission particulière aujourd'hui, hein ? Mais oui.
Écoute locale avec Cheese 94.3.
Le Beatnik Show, la meilleure playlist de rap au Québec. Des talents locaux, des nouveautés, la crème du hip-hop québécois. Avec votre MC, Nick Leclerc.
Lundi 18h30
au 94.3. Cheese.
Oh yeah, Cheese.
Pour le meilleur beat, Beatnik Show, man. Je te le dis, c'est malade.
Passe devant, c'est bien fait. Le tir est le but.
Vos Remparts disputent le deuxième match de leur saison 2022-2023 ce samedi 24 septembre en direct de Chiz 94.3. Ne manquez pas ce deuxième match de suite au Centre Vidéotron alors que les Tigres de Victoriaville seront les visiteurs. Rejoignez Rick Loutier sur nos zones dès 15h45 pour l'avant-match. Remparts Tigres ce samedi 16h sur les zones de Chiz 94.3.
Il y a des élections provinciales en ce moment au Québec. Pour voter, rien de plus simple, parce qu'il y aura un bureau de vote sur place à l'Université Laval. Tu pourras voter pour la personne candidate de ton choix parmi celles qui se présentent dans la circonscription de ton domicile. Les 23, 27, 28 et 29 septembre, vote entre deux cours. Trouve le bureau de vote et ses heures d'ouverture à l'adresse www.election.québec/campus. Un message d'Élections Québec.
De retour donc à la suite de notre émission Jazz, Jeunes et Aînés Solidaires avec Michelot qui est notre VP communication au niveau de Jazz, Jeunes et Aînés Solidaires. Ben aujourd'hui une émission oui spéciale où on discute ben on jase.
on jase.
Voilà, on jase en attendant nos aînés ben dès la semaine prochaine évidemment. Mais voilà, on fait appel à vous si vous voulez participer à cette émission, n'hésitez surtout pas, contactez-nous à jazz@asso.ulaval.ca, c'est bien la bonne adresse, jazz@asso.ulaval.ca. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook Jeunes et Aînés Solidaires Jazz. Et donc depuis tout à l'heure on évoque effectivement ces questions d'actualité, tu nous parles Michelot de ton pays Haïti, on va parler aussi de ton parcours, de tes préoccupations de recherche aussi. Le pays ne va pas bien, mais en même temps, justement, on est en train de parler de la force que pouvait avoir le monde associatif, le monde, la communauté étudiante. Et tu allais commencer effectivement à nous donner quelques détails, en fait, ta perception là-dessus.
Bon, oui, c'est. Alors, je suis parti de cette idée, effectivement, qui est très en vogue à l'Université Laval. Hein. Je me souviens avoir participé à plusieurs projets. Et notamment ce projet initié par le professeur Florence Piron, qui malheureusement a perdu la vie. Bon, elle est décédée il y a un peu plus d'un an. Donc, cette question de rapport entre l'université, la société, la science et la société, c'est parce que donc, cette idée que les universitaires, ils seraient dans un tour d'ivoire, déconnectés de la société, des vrais enjeux sociaux, donc on serait dans les livres en train de réfléchir, sans un regard vraiment sur ce qui se passe dans la réalité sociale. Mais c'est justement, c'est à partir de ça que je comprends la réalité, qu'il y a effectivement une nécessité d'engagement de l'université, de l'idée universitaire. Et c'est cette absence d'engagement que j'essaie de critiquer. Ben je ne sens pas vraiment qu'il y a une force. Il y a effectivement des aspirations.
En Haïti, bien sûr. Hein.
Ouais,
mais pourquoi, selon toi? Bon, c'est historique, évidemment.
Ben
mais
oui, c'est ça. Ben ouais. C'est... Bon, je pense que ça peut être dû à... C'est dû à plusieurs facteurs. Premièrement, il y a les questions existentielles, hein, il faut les reconnaître, puisque, par exemple, être enseignant ou chercheur en Haïti, c'est une véritable sacerdoce. Hein. Donc, on n'est pas payé pour ça, on n'est pas... Donc, ça ne permet pas de vivre, donc il y a ça. Et puis, il y a aussi, bon, c'est lié à un problème d'encouragement, de politique publique aussi, puisque c'est la recherche et n'est pas vraiment valorisée, le travail, je ne sais pas, mais je ne sens pas une velléité politique de faire appel à l'apport de l'université, des chercheurs, pour essayer de faire face aux vrais problèmes. Je ne sens pas ça, donc ça peut donner un certain encouragement, ça peut entraîner un découragement du côté de la communauté universitaire. Mm-hmm. Ouais, et là, je parle souvent à des collègues, des anciens étudiants, même des professeurs aussi, qui font état de ces difficultés et qui, à un certain moment, décident d'aller là où
le vent les emmène.
Ouais, justement, mm-hmm. C'est ça. Donc, mais ce qui arrive, c'est que il y a une aspiration, ouais, des différents secteurs pour un véritable changement. Mais ce qui manque, c'est cette absence de canalisation de ces différentes aspirations-là. Comment les organiser pour construire à partir de tout ça un projet, ouais, de revendication sociale, un projet de société, on pourrait dire. Donc, je vois des mouvements par-ci par-là, mais où est-ce que ça se rencontre? Où est-ce que c'est quoi l'objectif? C'est quoi le plan, etc. Donc il n'y a pas une.
C'est quoi la volonté commune finalement?
Justement, où est-ce qu'on peut se retrouver? Et je pense que historiquement, c'est ce qui manque à Haïti, hein, l'idée de cette appartenance à une communauté, hein,
cette à une nation,
justement. Donc je pense que c'est ce qui manque, et je pense aussi que c'est ce qui manque au niveau de l'université. Il n'y a pas une vision. Bon. En tout cas, on peut toujours en débattre, mais c'est ce que je pense à partir de ma lecture de la réalité. Et ça a ses effets qu'on voit aujourd'hui.
C'est ça. Je sais que tu travailles fort avec d'autres post-doctorants, des docteurs, haïtiens qui sont à la fois au Canada, aux États-Unis aujourd'hui. Vous mettez en place un certain nombre de choses en ligne, enfin à distance.
Bien sûr.
Est-ce que tu peux nous en parler? Quelle est justement votre contribution malgré le fait que vous soyez les uns et les autres à l'extérieur?
Ben moi, c'est... Il y a un volet qui m'intéresse, c'est la vulgarisation scientifique. Mm-hmm. Bon, parce que c'est vrai que je suis dans la communication, mais aussi j'ai une longue expérience dans la formation et comme enseignant, etc. Mm-hmm. Donc, et c'est ce que je faisais dans le temps, quand j'étais en Haïti, parcourir les différentes régions, les différents départements, animer des conférences, des séminaires, j'ai même publié des ouvrages, etc. Mm-hmm. Donc c'est ce travail que j'essaie de continuer à distance. Et, par exemple, chaque deux samedis, j'anime des conférences pour les étudiants, des webinaires, mm-hmm. où l'on reçoit des universitaires qui sont haïtiens ou étrangers aussi, mm-hmm. et on aborde des thématiques. Bon, pas forcément sur le contexte qui concerne Haïti spécifiquement, mais c'est l'idée. Par exemple, il y a une chose qui m'a interpellé dans mes expériences de travail en Haïti, c'est que surtout au niveau des universités, mm-hmm. l'incapacité des étudiants à finaliser, à obtenir leur diplôme parce qu'ils ne peuvent pas réaliser leur mémoire. Et j'ai été souvent interpellé de voir qu'il y a des étudiants qui passent des années d'études, 3-4 ans.
Est-ce que tu as des chiffres? Le nombre est important, vraiment?
Non, je n'ai pas de chiffres.
OK.
Mais je parle de ces conversations que j'ai eues avec des étudiants qui ont fait tout leur parcours académique sans jamais avoir un cours de méthodologie.
OK.
Ouais. Donc, c'est dans ce but-là, si vous allez sur ma page YouTube, par exemple, vous allez trouver qu'il y a tout un cours de méthodologie que j'ai rendu
public. Ta page s'appelle comment, oui?
Ça s'appelle Global Communication.
OK.
Donc c'est pourquoi j'ai mis en place, parallèlement avec cette structure que j'appelle Forum étudier et réussir, où l'on essaie de développer des compétences, de renforcer la formation reçue par nos étudiants.
Okay.
Et là, vous allez voir qu'il y a toutes ces ressources pédagogiques. Il y a tout un cours de méthodologie en place. Il y a d'autres thématiques aussi qu'on essaie d'aborder. Bon, ça, c'est ma petite contribution en tant que personne.
Et ça, c'est quoi? C'est pareil, c'est la défaillance, en fait, dans le système, dans les programmes, dans... comment toi tu essayes, enfin toi tu dis effectivement que donc tu donnes ces cours à distance également pour aider, pour contribuer, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une faille au niveau de l'université, c'est ce que tu dénonces, c'est ce que tu constates?
C'est ce qu'on constate. Et bon, quand on parle d'université, ils sont tellement nombreuses les universités, que ce soit à Port-au-Prince ou dans les villes de province, ce qui arrive, c'est que je ne peux pas l'expliquer, mais il y a plusieurs niveaux au niveau du problème. Premièrement, il y a la question d'enseignants. Ouais. Est-ce qu'on a des enseignants qualifiés, surtout dans les villes de province où les universités ne peuvent pas payer les enseignants? Donc, il y a une carence d'enseignants qualifiés dans certaines universités, surtout en région. Mm-hmm. Bon, ce problème ne se pose pas pour l'Université d'État d'Haïti, par exemple, ou certaines universités de la capitale, mais la plupart des... Mais on vous allez trouver partout dans les villes de province, des départements, des nouvelles institutions comme ça, mais qui va enseigner dans ces universités? C'est quoi la qualité de la formation reçue, tout ça? Donc, il y a des carences. Et moi, j'ai... Étonné que je ne me suis pas basé à Port-au-Prince, et j'ai parcouru l'ensemble du pays. Et c'est peut-être l'une des choses que l'Université Laval a valorisé, puisque ça m'a permis d'obtenir cette bourse de leadership.
Oui.
Bon, c'était pas l'objectif au départ, mais je me suis rendu compte que finalement ça a été très rentable.
Oui, parce que les expériences... j'ai presque envie de dire, il n'y a que chez nous que nos expériences et nos engagements sociaux, en fait, n'ont pas de comment dire... ne comptent pour rien, ne valent pour rien. C'est vrai qu'on se rend compte que quand on va à l'extérieur, effectivement, quand on voit nos CV, l'ampleur de nos engagements sociaux, ça frappe. Moi, je sais que sur mon CV, par exemple, quand je détaille juste quelques-uns de mes engagements sociaux, c'est très apprécié. Il y a que chez nous qu'on a le sentiment que tout ça, ça ne vaut rien. C'est incroyable. Comme quoi, on n'est jamais ni roi ni reine chez soi.
Bon, c'est dommage, mais c'est ça.
C'est pareil. Bon, il y a certainement des Québécois qui vont te dire la même chose, quoi, qui ne sont pas reconnus aussi. Mais enfin, on se dit ça. Quand on se rencontre ailleurs, on a toujours des choses à redire, évidemment. Mais enfin, bon, prenons ce qu'il y a de meilleur.
Ah oui, prenons ce qu'il y a de meilleur.
Et donc là, tu contribues, évidemment, à former à distance.
Former à distance. Voilà. On organise des débats, par exemple. L'un des derniers débats que j'ai organisé, avec un échange que j'ai réalisé avec un enseignant haïtien, c'est sur le vaudou, mais sur l'aspect culturel, en rapport avec l'identité. Mm-hmm. Et on parle d'Haïti, effectivement, c'est l'un des aspects qu'il faut mentionner, c'est que, et là je reprends un questionnement de celui qu'on appelle le père de l'ethnologie haïtienne, Jean-Pierre Smart, qui a demandé, mais comment un peuple qui a eu une si émouvante histoire a pu se trouver, bon, c'était pas ça son idée, mais a pu se trouver dans une situation pareille où tout va très mal, donc et sur le plan culturel aussi. Par exemple, j'ai eu cet échange sur le vaudou, par exemple, la vaudou dans la vie du peuple haïtien, mais les traits culturels qui sont considérés comme une plaie sociale. Hein. Vous avez donc des éléments qui constituent le socle de l'identité haïtienne qui sont considérés comme une plaie sociale. Plaie sociale, c'est le mot d'un professeur haïtien que j'ai repris. Et justement, c'est ça. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de cette absence de lieu commun, d'esprit, d'appartenance. Donc, il y a des choses qui constituent les valeurs, par exemple, les éléments culturels, par exemple, qui sont pas...
L'identité de tout peuple, en réalité.
Justement. Voilà.
Ça ne constitue pas une fierté, mais plutôt comme un...
C'est des choses qu'on connaît, mais je ne sens pas qu'il y a une...
C'est les jeunes, par exemple. Quand on parle de vaudou, bon, ce sont plutôt les... D'ailleurs, de ce que j'ai pu voir comme reportage, ce sont plutôt, j'ai envie de dire, nos aînés qui parlent de ça. Mais chez les jeunes, comment c'est perçu, ça?
Ben c'est ça, et ben c'est la même perception, à mon avis, par rapport à l'ensemble de ce que nous avons comme élément culturel. Par exemple, cette semaine, j'ai été écœuré de voir un groupe de jeunes, et le 20 septembre, je crois, c'était la date de l'anniversaire de Jean-Jacques Dessalines, le père de la nation, celui qui a proclamé l'indépendance du pays, qui sont allés salir le monument historique qu'on a érigé sur le Champ de Mars, la place... ou la place des héros. Donc,
quoi leur revendication pour faire un tel acte?
C'est ça.
Est-ce que
question.
Tu as eu des échos de cela?
Mais c'est ça. C'est des actes gratuits, bon, qui n'ont pas une revendication claire. Mais ça se passe comme ça et ce n'est pas la première fois que c'est arrivé. Et aussi, je me souviens par exemple, à cette même période-là, il y a eu même une mairie à Marchand-des-Salines, là où. Qui a transformé la maison de l'empereur de Dessalines en des... Je crois qu'ils ont construit des maisonnettes, etc. Ils ont brisé ce monument pour...
Mais en fait, tu dis que c'est des revendications floues, mais ça part certainement de quelque chose. Si en plus c'est quelque chose qui se répète année après année, c'est qu'il y a quand même quelque chose de sous-jacent là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas matière à creuser, justement?
Il y a matière à creuser, bien sûr.
Oui, voilà. Donc,
ce que je suis en train de dire par rapport à la question perception du vaudou, de la culture, etc., et l'esprit d'appartenance, donc c'est ça. Je pense qu'il y a ce travail qui doit être fait pour que Haïti, mais quand même...
Travail de conscience, de mémoire, de...
Pour créer cette conscience patrimoniale,
patrimoniale, patriotique même.
Patriotique, justement. Et c'est pas un trait spécifique à Haïti, ben, je pense que c'est valable aussi pour de nombreux pays du Sud anciennement colonisés. Et c'est justement l'une de mes préoccupations de recherche actuellement. Je mène mon travail de recherche là-dessus. Il est vrai que je suis dans la communication publique, mais je me porte sur ces aspects. C'est d'ailleurs la thèse que je rédige actuellement. C'est mon projet de thèse, c'est là-dessus, communication patrimoniale et construction identitaire. Donc,
ton terrain de recherche?
Mon terrain de recherche, c'est... C'est Haïti dans une perspective d'étude des cas, mais sur un projet spécifique, parce que ce qui m'intéresse, c'est le lien entre Haïti et l'ensemble des pays du Sud anciennement colonisés, y compris des pays d'Afrique, etc. Donc l'un des projets qui cimente ces pays, c'est le projet de la route de l'esclavage, la route de l'esclave. Bon, l'UNESCO a changé le nom de ce projet ces jours-ci. Ils appellent la route des personnes mises en esclave.
C'est des revendications de longue date par plusieurs organisations, que ce soit des organisations des Antilles, que ce soit des organisations effectivement sur le continent africain. Enfin bref, ça date quoi.
Donc je crois que c'était en 1994 que c'est Haïti qui a initié, qui a proposé ce projet. Et justement, donc, j'essaie de voir, par exemple, les actions de communication entreprises par l'État haïtien à travers le ministère de la Culture autour de ce projet. Comment Haïti est-il représenté? Mais c'est quoi l'appropriation haïtienne de ce projet qui a été initié par Haïti et qui, justement, fait le lien, puisque quand on parle d'esclavage, de colonisation, on voit un ensemble de peuples qui en sont concernés. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pas Haïti en tant que pays, mais c'est les pays du Sud. Et c'est justement c'est ça ma préoccupation. Et vous voyez, donc, c'est ce qui explique que mon horreur face à des actes de vandalisme, des éléments aussi importants liés
donc,
à
distance. Ok, donc à distance, tu as une espèce d'école numérique en fait, c'est ça, comment tu dis?
Ben, bien sûr.
Ouais, c'est ça. Tu fais des formations à distance. Bon, tu parles des conférences, mais il y a ben du temps qu'il faut passer avec, pas simplement les jeunes d'ailleurs, hein, c'est toute génération confondue. Exactement. Pour cette appropriation culturelle, pour cette, comment dire, pour ces cours aussi nécessaires effectivement pour apporter une information juste et pas biaisée.
Exact. Mais ça prend beaucoup d'efforts, c'est l'une des... Je pense que c'est... Parce que là, on parle de la reconstruction d'Haïti, ça fait très longtemps, ben je pense que ça peut partir de là. Ouais, parce que la plus grande richesse qu'on a, que des pays comme Haïti ont, c'est la culture. Ouais, on exporte, on ne produit pas de véhicules, on ne produit pas de... Mais on a, et il n'y a pas très longtemps, le tourisme était considéré comme l'industrie la plus rentable du monde. Donc, un pays avec autant de richesses culturelles, donc quelque part, ces valeurs culturelles, peut-être le départ à un double niveau, hein, le point de départ vers ce développement à un double niveau, premièrement, pour créer cette cohésion sociale qui n'existe pas. Ouais, on le voit très clair, ça n'existe pas. Donc c'est ça. Et puis, sur le plan économique aussi, à travers le tourisme, bon, bien entendu, pour parler de tourisme, il faudra que la question sécuritaire, etc., soit abordée. Mais je pense que c'est ça, et c'est l'une de mes préoccupations. Et en tant que doctorant-chercheur, je ne fais pas de la recherche parce que j'ai envie de faire de la recherche, mais je m'inscris dans une perspective d'engagement, mm-hmm. ouais, de science engagée, mm-hmm. qui est un peu contraire à ce vieux principe de neutralité axiologique, mm-hmm. inspiré de Max.
Quelle est ta méthodologie d'ailleurs?
Ouais, donc
ta méthodologie, c'est laquelle? Celle que tu as décidé d'emprunter pour ton projet de thèse?
Ben là, j'organise. Et dans des entrevues avec des acteurs clés, mm-hmm. je fais tout un travail de recherche documentaire, d'analyse documentaire pour voir. Là, je compile l'ensemble des
démarches empiriques.
Justement. Ouais. Non, je compile l'ensemble des publications officielles, okay. faites par le ministère de la Culture à travers le Bureau national d'ethnologie, l'ISPA, etc. pour voir autour du projet qui m'intéresse, le projet de la route de l'esclave. Mm-hmm. Mais comme je l'ai dit, c'est un...
Ou des personnes mises en esclavage.
Bon, désormais.
Mais ça fait un moment, même ouais. si ce n'était pas rendu officiel, ouais. C'est clair que bon, c'est l'une des revendications de certains syndicats, particulièrement Guadeloupe aussi, Guadeloupe, Martinique, qui parle évidemment des personnes mises en esclavage.
Je pense que ça reflète tout à fait la réalité de ce qui s'est passé historiquement. Hein. Ces gens n'ont pas choisi d'être esclaves. Hein. Mm-hmm. Ils ont été arrachés chez eux, etc., bon, dans les conditions qu'on sait. Donc, c'est pas du passé. Quand je dis que c'est pas du passé, peut-être que l'esclavage, c'est vrai que c'est considéré comme un crime contre l'humanité actuellement, mais... Les rapports coloniaux ne sont pas révolus. Donc, les séquelles de la colonisation sont encore là. Et les peuples anciennement colonisés n'arrivent pas encore à s'en sortir. Hein. Il y a encore ce complexe d'infériorité, il y a encore cette incapacité de forger son propre modèle de développement. Il y a tout ça. Donc.
Quelle est la part, justement, du regard des aînés, les grands-mamans, les grands-papas, dans tout ce contexte social, culturel, identitaire, social, agité, finalement, en Haïti? Quel regard les aînés? Est-ce que la voix des aînés est entendue en Haïti?
Ben, je pense qu'on a... qu'on a atteint cette étape. Je pense que cet aspect-là est atteint par ce qu'on a connu ces jours-ci, le déclin des institutions. Vous voyez, dans le temps, quand je dis institutions, pas de manière...
Au sens littérale, de la société,
justement.
En fait. Ouais.
Par exemple, dans le temps et un jeune et par la parole de d'une personne, d'un notable par exemple, mm-hmm. la ville ou de ou
ça faisait foi quoi.
Justement.
Ouais.
Donc, mais là, on est dans une situation où il y a un déclin.
Donc, plus personne s'écoute et plus personne, on n'entend plus personne, c'est ça? Ben, c'est pour ça que tu es en train de me dire, là, Michel.
Je pense, par exemple, on m'a raconté l'histoire, par exemple, dans le temps. Et si vous alliez à un cours, par exemple, et que vous êtes en retard ou absent, et que vous pouvez prouver que vous étiez en train de suivre un débat au Parlement, ben, on ne va pas vous sanctionner à l'université en Haïti. Mais il y a depuis quelques temps, ben, quand on écoute un parlementaire, on ne fait que rire. Donc, okay. Et c'est la même chose ici. Il y a des valeurs qu'on essayait de protéger avec les aînés, par exemple. On prenait le temps d'écouter les anciens. Mais je ne suis pas sûr que c'est encore... Ben, ça ne concerne pas uniquement Haïti. Je ne crois pas que ça concerne uniquement Haïti. Mais je crois qu'on est...
Il y a une espèce de désacralisation.
Justement,
en fait.
Ouais. Le lieu de débat,
ouais.
n'existe plus. L'église n'existe plus. Bon, puisqu'on parle encore en Haïti, puisque j'évoque l'idée de l'église, je suis encore écœuré de voir, par exemple, que actuellement, le chef de l'église catholique est interpellé pour son implication dans l'importation des armes en Haïti, donc la question de l'insécurité, une institution dans le temps sacré, mais quand des choses comme ça arrivent, ben finalement, qui va faire confiance aux paroles de l'Église, hein, à qui on peut faire confiance. Et... Donc c'est tout ça, ben, on est dans une mutation globale à travers le monde, mais qui touche Haïti aussi. Non seulement puisque les lieux de parole se libèrent avec les réseaux sociaux, il y a l'absence de la décrédibilisation des institutions.
Donc, finalement, on n'est que sur les réseaux sociaux. Là,
ben, justement,
ça fait pas un pays, ça.
Et chacun,
ouais, il va
et chacun
sa...
défend
ouais,
son
beefsteak,
son point de vue, ouais. sa propre éthique. Hein. Nous sommes au niveau de l'éthique. On a une multiplicité d'éthiques en fonction de tel ou tel. Donc, cette absence de repères, je pense que bon, c'est l'un des avantages, peut-être l'un des corollaires du monde numérique qu'on connaît, mais je pense qu'il faudrait vraiment qu'on voit ça. Bon, je ne dis pas contrôler ou régler ça, mais il faut voir ça de plus près. Mais à mon avis, ça comporte un potentiel de danger. Ouais.
On arrive quasiment à la fin de l'émission. C'est passionnant ce que tu dis. C'est à la fois triste et passionnant, déconcertant même. Je ne sais pas ce que diront nos auditeurs, mais j'aimerais quand même qu'on puisse terminer sur une note positive. Quelle espérance ! Il faut avoir de l'espérance, il faut avoir des espoirs. Justement, où est-ce qu'on peut placer notre espoir et notre espérance en Haïti ?
On est dans un carrefour historique et c'est bien d'utiliser le mot crise. Hein. L'idée de crise, c'est que quand on est en crise, ou bien on disparaît ou bien on se rétablit.
Mm-hmm.
Donc je pense que... Et l'espérance qu'on a aujourd'hui, c'est cette aspiration des différentes couches de la population, que peu importe le secteur qu'on considère, il y a une volonté de changement.
Mm-hmm. La jeunesse, l'espérance et l'espoir de tout pays, ben c'est sa jeunesse.
Maintenant.
Est-ce qu'on peut compter sur la jeunesse haïtienne pour retrousser les manches, se tenir debout, faire face, lutter contre tout ce qu'on connaît de négatif actuellement d'Haïti pour pouvoir effectivement se mettre debout et se dire que notre pays... Il faut absolument qu'ils puissent rester debout après tout ça, quoi.
Ben, je pense qu'il n'y a pas de doute quant à la capacité de cette jeunesse,
mm-hmm.
qui, une jeunesse universitaire et une jeunesse professionnelle, on les voit dans les rues, cette capacité de résilience à laquelle tu as fait face. Mais je pense pas que cette capacité sera utile sans une
structure. Il faut que ça s'organise,
voilà,
évidemment.
Justement, faut que cette force soit canalisée. Et c'est cette absence de leadership qui pose problème, à mon avis. Et je suis très bien content de voir qu'il y a actuellement des groupes qui se constituent. Bon, j'espère que ça va apporter des fruits, moi aussi.
Tu portes ta petite pierre à l'édifice.
Bah, bien sûr, j'ai pas de manière directe, puisque je, de point de vue social et politique, je ne suis pas très, je suis surtout engagé au niveau éducatif. Bon, je pense que c'est dans ce domaine que j'ai la compétence qu'il faut. Je
c'est de manière directe. Il y a plusieurs façons de faire. Ouais. De toute façon, tous ceux qui concourent au bien d'Haïti et de tout pays, de façon directe ou indirecte, de toute façon, que ça touche de près ou de loin, l'important, c'est qu'il y ait de bonnes volontés animées d'un esprit positif, avec des valeurs, et qui souhaitent évidemment qu'Haïti puisse se relever de tout ça. Et puis oui, on peut avoir de l'espoir dans cette jeunesse active, entreprenante, qui en veut aussi et qui ne veulent pas reproduire les schémas du passé. C'est sûr qu'il faut avoir, qu'il faut être résilient, qu'il faut être tenace, qu'il faut avoir une volonté certaine, et que tous les efforts que peut-être cette jeunesse fait aujourd'hui, ben, peut-être qu'ils ne verront pas les résultats de leur vivant, mais il faut laisser quelque chose.
Il faut laisser quelque chose, ouais. Et là je pense à Jacques Roumain, c'est mon ancien haïtien qui a dit que ça c'est du créole, dans chaque carrefour rivé, il faut tracer son vévé pour ça qu'on vienne pour au carré, côté pour passer.
En français ça veut dire.
À chaque carrefour, il faut laisser une trace, hein, pour montrer à ceux qui vont suivre par où il doit passer. Donc tracer les chemins, laisser quelque chose, les créer des îlots d'espérance, hein, pour... la nouvelle génération, ben, je pense qu'il faut s'inscrire dans cette logique.
Et Fanon s'inscrivait aussi là-dessus en disant que chaque génération, dans une relative opacité, doit faire sa mission ou la trahir. Donc il faut y aller, il faut y aller. C'était un bon moment d'échange. Merci beaucoup, Michelot. Merci. Donc, on n'a pas eu le temps de parler de tout ce que tu vas mettre en place au niveau de la communication, mais on verra ça sur les réseaux, sur notre site futur, etc. Bienvenue à bord. Merci d'avoir suivi cette émission Jeune et Aîné Solidaire Jazz sur Chiz 94.3. On se retrouve samedi prochain. J'espère que vous avez passé un moment avec nous. Vous avez appris des choses et que finalement... ben, il n'y a que les hommes et les femmes et les hommes, debout, qui font avancer nos sociétés, qu'on est sûr que vous en faites partie. Merci beaucoup, et puis prochain rendez-vous la semaine prochaine. Bonne fin de semaine.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche, tous les jeudis matins de 9h à 11h, sur les ondes de Cheese 94.3 avec Augustin Becci.
Ok, attention. 1, 2, 3, Cheese!
Si vous êtes comme moi, vous aimez la navigation durant l'été. Mais trop souvent, la consommation d'alcool peut transformer ce plaisir en tragédie. Près de la moitié des décès lors de la navigation de plaisance au Canada impliquent de l'alcool. La navigation avec facultés affaiblies, c'est de la conduite avec facultés affaiblies. Si vous voyez un plaisancier aux facultés potentiellement affaiblies, n'hésitez pas à contacter le 911.